Vous connaissez ces trois initiales SUV, sans forcément d'ailleurs savoir ce que ça veut dire. Sport, Utility, Vehicle. Mais ce n'est pas grave, parce que vous visualisez déjà les 4x4 des villes dont les ventes montent en flèche depuis 10 ans dans le monde. Mais sous leur ligne moderne, puissante et cool parfois, les SUV prennent des allures de bêtes noires, accusées d'émettre beaucoup trop de gaz à effet de serre et donc de réchauffer la planète. De quoi faire perdre leur sourire satisfait aux conducteurs surplombant leurs voisins sur la route. Pour en parler aujourd'hui dans la Terre au Carré, Mathieu Chassinier, ingénieur de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, l'ADEME. Et on a hâte aussi de vous entendre, vous, au bout du fil. 01 45 24 7000 pour vos questions et réactions. Sans oublier le mot-clé, l'attaque sur les réseaux sociaux. Guy Vanctil, bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Guy, passe au vert, c'est dans 10 minutes.
Oui, aujourd'hui je vous emmène étrenné face au géant Total, la loi sur la responsabilité environnementale des entreprises votée en 2017.
Après 14 heures, le feuilleton de la semaine, nous allons voir l'électricité de l'île d'Ouessant. Dans vos solutions pour la planète, les incroyables comestibles, ce collectif qui veut transformer les villes en potagers géants. On sera avec Marie à Annecy. Et puis enfin, couvrez-vous pour notre invité découverte, puisque Cyprien Verseux nous emmène passer l'hiver en Antarctique, moins 100 degrés sur place. On peut le dire, ça caille.
Camille Cronier. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Mathieu Chassinier et bienvenue. Vous êtes ingénieur en charge des mobilités à l'ADEME, l'agence de maîtrise de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous avez quoi comme voiture, vous ?
Ah, j'en ai pas.
Ah, vous en avez pas. Bon, au moins, vous faites pas partie, en tout cas, de ceux qui roulent au volant d'une des 606 240 SUV en circulation en France aujourd'hui. C'est trois fois plus qu'il y a 10 ans. Pourquoi tant d'engouement pour ces voitures ?
En fait, on se rend compte qu'il y a un véritable effet de mode autour des SUV. Alors pourquoi ? C'est parce que, la réponse est assez simple, c'est parce que ce sont des voitures qui sont beaucoup plus rentables pour les constructeurs. C'est-à-dire que le taux de marge lorsqu'un conducteur vend un SUV est nettement supérieur à son taux de marge lorsqu'il vend une citadine ou une berline.
Il la vend à peu près de 32 000 euros, je crois, le prix moyen d'un SUV.
Le prix moyen d'un SUV, c'est environ 32 000 euros, alors que le prix moyen d'un véhicule neuf, c'est de 26 000 euros. Et donc, effectivement, donc la rentabilité est bien meilleure pour les constructeurs, ce qui explique le fait que, finalement, la plupart des constructeurs automobiles aujourd'hui ressentent toute leur stratégie marketing autour du SUV.
Il n'y a pas une marque qui n'en fait pas.
Ah non. Non, non. Même les marques qui certaines marques sont en retard, mais en tout cas, celles qui sont en retard essayent de rattraper à marche forcée le rythme. Et puis, certaines marques, comme Peugeot, par exemple, PSA, surfent complètement sur cette vague, puisque plus de 40% des véhicules vendus par PSA aujourd'hui sont des SUV.
Et alors, il y a même 200 millions de SUV dans le monde. C'est été multiplié par 6 les ventes ces dernières années. Ça fait environ 10% du parc mondial automobile.
Il y en a 200 millions aujourd'hui. Il y en avait seulement 35 millions en 2010. Et quand on regarde les chiffres pour la France, en fait, on suit la même tendance, puisqu'en 2008, seulement 5% des voitures vendues en France étaient des SUV. Et aujourd'hui, en 2019, c'est à peu près 38%. Donc on a multiplié par 8 quasiment les ventes de SUV.
Alors c'est Sport Utility Vehicle, dis-je avec mon superbe accent. Ah oui. Viennent des États-Unis, c'est bien ça.
Oui. Alors on appelle ça. Alors effectivement, avant tout le monde appelait ça un 4x4 hein, ouais. dans le langage courant. Simplement, les conducteurs se sont rendus compte que le terme 4x4 avait une connotation négative. C'est-à-dire qu'un 4x4 c'était considéré comme très polluant, etc. Très peu souhaitable en ville. Et donc la première chose qu'ont fait les constructeurs, c'est qu'ils les ont renommés et ils ont utilisé l'acronyme américain plus exactement, qui veut pas dire grand-chose. Sport Utility Vehicle, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Canadiens appellent ça des véhicules utilitaires sport. Ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus.
Et SUV, encore moins finalement.
Et encore moins, mais ça permet de gommer l'image négative que traînaient les bons vieux 4x4.
Alors, on va rester dans les anglicismes, pardon pour les auditeurs qui n'aiment pas ça, mais ces SUV vivent en ce moment un bad buzz. Hein. Leur réputation prend un gros coup parce que donc l'Agence internationale de l'énergie dit que ce sont de gros acteurs du réchauffement climatique. Leurs émissions de CO2 sont beaucoup trop importante. Comment est-ce que c'est possible, Mathieu Chassinier ?
Oui, alors du fait que ce sont des véhicules qui sont globalement plus lourds et moins aérodynamiques que des véhicules classiques, ils consomment plus. Donc l'AIE nous dit qu'un SUV consomme à peu près 25% de plus qu'un véhicule moyen. Et donc c'est un vrai problème, puisqu'on devrait aller vers des véhicules plus petits, plus sobres, Et à l'inverse, on va vers des véhicules qui sont plus gros, plus consommateurs. Donc dans ce sens, on pourrait dire que finalement le SUV va dans le sens inverse de l'histoire, qui devrait être d'aller vers des véhicules plus efficaces.
Alors l'AIE dit que, au sujet de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, ces SUV sont devant l'aviation et les poids lourds par exemple, juste derrière l'industrie lourde en fait.
Oui, sur l'augmentation récente des émissions de gaz à effet de serre, c'est vrai que les SUV sont particulièrement visés parce qu'ils se développent partout, dans tous les pays. Au départ, c'était plutôt aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est largement un phénomène mondial. Et que le Japon qui est un petit peu épargné. Mais en tout cas, l'Europe est largement subi également cet effet de mode.
Alors, pour ceux qui croient qu'on parle de pollution, comme moi à la base d'ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les gens qui sont au volant, là, même qui nous écoutent peut-être de leur SUV, disent « Mais non, mais moi je pollue pas, j'ai d'ailleurs ma vignette critère 1. » Ça n'a rien à voir, ça, c'est de la pollution de l'air, les vignettes, c'est
oui,
ça ?
Oui, alors ce dont parle l'AIE, c'est vraiment les émissions de CO2. Et les vignettes critères, c'est autre chose. Ce sont les polluants locaux, donc les particules ou les oxydes d'azote. Et donc là, finalement, c'est plus lié à l'année de mise en circulation des voitures. Parce que un véhicule qui est mis en circulation aujourd'hui, qui a le droit d'être mis en circulation aujourd'hui, ça veut dire qu'il a passé le test avec succès, qu'il est homologué. Et donc, qu'il est en dessous d'un certain seuil de pollution, ce qui lui vaut d'avoir la vignette critère 1. Mais c'est vrai que c'est choquant pour certaines personnes, parce que notamment en cas de pic de pollution, on a certains véhicules les plus polluants qui sont interdits, et puis on a le droit de rouler en ville au volant de son SUV ou de son pick-up. Donc c'est choquant, je le conçois, mais ce sont quand même deux sujets qui sont un petit peu différents.
Voilà, donc là les émissions de CO2, on le redit bien, ça contribue au réchauffement de la planète, et donc évidemment ce n'est pas bon pour l'urgence climatique. Alors la question que je me posais aussi, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, si ça continue à ce rythme-là, ça va annuler tous les efforts qu'on fait par ailleurs, les véhicules électriques, les mobilités douces comme le vélo par exemple ?
Oui, tout à fait. Alors ce que dit l'AIE, c'est que si on continue à ce rythme en 2040, les SUV seront responsables d'une surconsommation qui correspondra à 2 millions de barils par jour. Et donc ça correspond également au gain énergétique, enfin au gain de pétrole induit par la mise en circulation de 150 millions de voitures électriques. Donc autrement dit, tous les efforts qu'on fait sur les véhicules électriques est complètement annulé par cet essor des SUV.
Alors les constructeurs, eux, donc vous le disiez tout à l'heure, ils ont bien conscience que c'est vraiment un produit qui marche, donc ils font de la pub à gogo, et on peut en témoigner puisqu'on en a aussi sur notre antenne à France Inter. Au passage, ici dans l'émission en tout cas, on n'y est absolument pour rien. Qu'est-ce que les Greenpeace par exemple dit, que ce sont des chars d'assaut urbains, et même ils les ont accusés au dernier salon de l'automobile de Francfort de tueurs de climat, quand au même salon, Carlos Tavares, le président de PSA, disait lui, si demain, je le cite, hein, si demain quelqu'un vous dit les SUV vous arrêtez, c'est terminé, et bien après-demain, il vous interdira les voyages en avion, manger telle ou telle nourriture et partir en vacances à plus de 100 km de chez vous. Les constructeurs, en fait, ils veulent pas voir les conséquences de la mise en circulation de ces millions de SUV.
Je pense que les constructeurs en voient les conséquences. Par contre, il y a une autre conséquence qu'ils voient, c'est que ça leur permet d'avoir de meilleures marges. Donc, pour très concrètement, PSA, par exemple, qui se portait très mal il y a quelques années, a réussi à sortir du rouge grâce aux SUV. Et aujourd'hui, ils ont un taux de marge opérationnel sur leur vente de véhicules qui est très important. Et c'est en grande partie grâce aux SUV. Donc c'est pour ça que le patron de PSA, mais aujourd'hui finalement plus personne, enfin très peu de gens défendent les SUV. Il n'y a plus que les constructeurs, c'est-à-dire que même les associations d'automobilistes ne défendent pas particulièrement les SUV. Alors à part peut-être 40 millions d'automobilistes et Pierre Chasseret dont on connaît la mauvaise foi. Mais enfin, si je prends par exemple l'Automobile Club de France, son président a récemment déclaré que c'était une mode qui considérait que c'était une mode qui n'était pas très rationnelle et que dans la plupart des cas, finalement, on n'avait pas l'usage d'un SUV, que c'était simplement un effet de mode.
Oui, parce que le grand argument, c'est de dire c'est évidemment un besoin, il y en a besoin pour la famille, et donc s'ils ne prenaient pas de SUV, ils achèteraient un break ou un monospace qui pollue encore plus.
Oui, hein, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir. Beaucoup de gens disent oui, finalement, les SUV, c'est pas grave, puisque c'est des véhicules qu'on achète à la place des monospaces. En fait, quand on regarde les chiffres, hein, si on regarde par exemple entre 2010 et 2017, les SUV sont passés de 9% des ventes à 32% des ventes. Donc ils ont pris 23 points de part de marché. Dans le même temps, les berlines sont passées de 61% à 49%. Donc les berlines ont perdu 12 points de part de marché. Les monospaces sont passés de 19% à 11%, donc ont perdu 8 points de part de marché. Et les breaks ont perdu 2 points de part de marché. C'est-à-dire que les SUV prennent autant sur les berlines que sur l'ensemble monospace plus brique.
Et on en reparle de la publicité. Hein. Aujourd'hui, ils ne font pas de pub sur les berlines, ils font pas de pub sur d'autres types de véhicules. Le député Mathieu Orphelin, il a voulu, lui, une loi pour interdire carrément la publicité pour les SUV, retoquer. Ça serait peut-être une nouvelle piste au passage de la Convention citoyenne, mais bon, ils sont encore en train d'en parler. Et puis, il y a un autre amendement qui a été retoqué, c'était il y a 10 jours, lui prévoyait un malus en fonction du poids du véhicule. Ça veut dire qu'on fait rien et qu'en plus, ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne contribue pas à arrêter cette multiplication des SUV.
Alors, c'est vrai que sur la pub, en fait, aujourd'hui, on a une polarisation. C'est-à-dire qu'on voit encore des pubs pour des citadines et on voit des pubs pour des SUV. Entre deux, on n'a quasiment rien. Donc, c'est un peu comme si, finalement, toute une partie de l'offre était masquée aux consommateurs à qui on ne propose soit une citadine, soit un SUV. Et donc, ça marche très bien. Alors, il faut savoir que la pub automobile en France, c'est 3,5 milliards d'euros par an qui sont dépensés par les constructeurs. Ce qui signifie que sur les 2,2 millions de véhicules vendus, lorsque vous achetez une voiture en France, dans le prix que vous payez, il y a 1500 euros qui correspond à de la publicité.
Donc 1500 euros des 30 000 et quelques qu'on met dans son SUV vont pour la pub.
Tout à fait. D'accord. Et donc voilà, ce sont des montants qui sont énormes et qui forcément agissent sur l'imaginaire collectif et qui donnent envie aux consommateurs d'acheter finalement ce type de modèle. D'autant plus qu'il y a presque plus de pubs pour d'autres véhicules que pour des SUV.
D'accord, donc ça c'est un gros chapitre dont on va parler dans un instant, vous ne bougez pas. On revient avec vous, quand je dis vous, c'est vous les auditeurs, vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000. Et puis si vous voulez pas parler au téléphone, eh bien vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, le mot-clé, la TAC.
France Inter. La Terre au carré.
Guy Vanctil, il est question aujourd'hui d'affaires juridiques et de justice environnementale.
Oui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet compliqué et qui en plus passe même pas chez nous, mais en Ouganda. Alors je sais bien, Camille, c'est pas trop sexy comme accroche, mais laissez-moi vous convaincre que c'est en fait une première mondiale et qui risque d'avoir des conséquences importantes si tout se passe bien. Ça commence comme un affrontement classique à ma droite, le géant Total qui veut lancer un nouveau méga-projet à 200 000 barils par jour, et à ma gauche, deux associations françaises, Survie et les Amis de la Terre, et 4 ONG ougandaises pas contentes. Mais grâce à la loi sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui a été votée sous Hollande en 2017, le dénouement va peut-être changer. Je suis allé à donc retrouver Sophia Gallo, qui est juriste aux Amis de la Terre.
Paris, lundi soir, il est bientôt 20h. Et voilà plusieurs heures que je suis en stand-by devant un cabinet d'avocats. Pas loin de Bastille. Et j'y suis arrivé, c'est là où j'ai rendez-vous. Bonsoir.
Bonsoir. Je suis désolé, c'est.
Je vous attrape là à la sortie du cabinet d'avocats à 20h passées.
On était en train de travailler sur le projet, enfin sur notre cas contre Total pour ses activités en Ouganda.
C'est-à-dire que l'annonce officielle de les poursuites a été faite la semaine dernière. Et là, lundi soir encore, vous fourbissez les arguments et vous préparez l'attaque.
Oui, exactement. Il faut continuer à travailler sur le dossier pour avoir des arguments et des pièces béton pour le jour J.
6 ONG françaises et ougandaises ont mis en demeure le groupe Total pour un projet pétrolier en Ouganda. Un méga projet porteur de risques graves pour la population et l'environnement.
Sophia Gallo, pourquoi il faut s'intéresser à cette action en justice? Je répète, c'est une assignation en référé de Total devant le tribunal de Nanterre. C'est parce que c'est une première. C'est pour une fois, la France est peut-être en avance sur quelque chose. En tout cas, c'est une loi qui n'a jamais servi, qui permet d'interpeller les multinationales pour ce qu'elles commettent ailleurs.
Oui, exactement. C'est une grande première, cette action, parce que c'est la première assignation en justice d'une multinationale qui est soumise à la loi sur le devoir de vigilance. Et grâce à cette loi, on peut enfin poursuivre en France les grosses multinationales pour les activités de ces filiales à l'étranger. Sans cette loi, par exemple, les populations locales n'auraient pas pu se retourner contre la société mère. Elles auraient pu se retourner uniquement contre Total Ouganda devant les juridictions ougandaises.
Donc si je comprends bien, cette action c'est en justice, c'est un peu un test, ça passe ou ça casse pour voir si cette loi est bien efficace pour responsabiliser les multinationales.
Oui, comme nous l'explique Sophia Gallo, ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est qu'on peut enfin agir avant qu'il ne soit trop tard et prendre les devants sans attendre une catastrophe écologique.
Oui, c'est effectivement tout l'intérêt de cette loi qui prévoit un mécanisme préventif et un mécanisme pour réparer les dommages. Et nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le mécanisme préventif. Demander au juge d'ordonner à Total d'établir un plan de vigilance. Certains dommages ont déjà été causés, mais le projet est encore long et il est encore temps, grâce à une décision qui sera rendue en urgence par le juge, de prévenir des graves atteintes à l'environnement. Total nous a répondu par un courrier très bref qu'il n'y avait aucune violation et surtout, ils considèrent que leur plan de vigilance est suffisant et que par conséquent, il n'a pas été modifié. Si on arrive à montrer que le plan de vigilance est défaillant, le juge pourra leur ordonner de prendre des mesures pour empêcher les futures violations et pour prévenir les atteintes à l'environnement.
C'est une première et tout l'intérêt de cette démarche, ça risque aussi de faire une jurisprudence et ça risque d'être applicable pour d'autres pays, pour d'autres multinationales.
Oui, alors pour d'autres pays, encore faut-il que ces pays adoptent une telle loi, mais il y a de nombreuses initiatives en Europe qui vont dans ce sens. En France, c'est effectivement un premier procès sur lequel on compte beaucoup et qui va retenir l'attention de nombreuses associations parce que nous ne sommes pas les premiers à avoir envoyé une mise en demeure. D'autres mises en demeure ont été envoyées sur la base de cette loi devoir de vigilance. Et donc effectivement, la décision qui sera prise par les juges, le précédent qui va être créé dans cette affaire est très important pour la suite et les nouvelles actions qui seront basées sur cette loi devoir de vigilance.
It's our responsibility.
And our commitment to make it better.
For all of us.
Total, committed to better energy.
C'est ça, on parle de responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des multinationales. Là, on la met face à ses responsabilités, concrètement.
Aujourd'hui, on a un texte vraiment contraignant. En fait, elles doivent répondre de leurs actes. Donc, on leur demande de prendre des mesures qui permettent effectivement de lutter contre les risques que leurs activités engendrent.
Donc, vous avez encore pas mal de boulot et c'est une affaire à suivre, Sophia Gallo.
Exactement. C'est un long dossier qui nécessite encore beaucoup de travail.
Et Guive Passauvert.
Oui, parce que c'est un référé, donc la réponse devrait venir assez vite. Et en attendant, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez aller sur les sites de la Tête au Carré, sur la Terre au Carré. Lapsus.
Sur France Inter.
Et retrouver la vidéo de Les Amis de la Terre.
Merci Guive.
Je vous en prie.
On se retrouve dans un instant, juste après la musique. Et puis surtout, avec vos questions sur les SUV à Mathieu Chassigné de l'ADEME 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, donc la page de la Terre au Carré. Et puis sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « La TAC ».
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage, derrière. Fifties, I'm fifties, dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats, dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle, sur la route ravie. En arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm fifties. I'm fifties. Rue Campagne Première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dos, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure. Dans le train Mistral, y'a un coiffeur. 50s. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, I'm 50s. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux, Renault, I'm 50s. Roger, Jacqueline, quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
I'm 50s avec même des voitures dedans, c'était Alain Souchon et Thierry Dupin pour la programmation musicale.
La Terre au Carré. Camille Cronier.
Et vos questions déjà très nombreuses pour Mathieu Chassigné de l'ADEME au 01 45 24 7000 via aussi l'application France Inter, sans oublier Facebook et Twitter avec le mot-clé la TAC, question sur les SUV. Tout de suite, Jean-Marc est au bout du fil. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Alors voilà, d'abord merci pour avoir donné des chiffres très précis, j'espère qu'ils seront sur le site. Voilà. Alors, ma question, c'est le SUV n'ayant aucune utilité objective, autre que de toiser quelquefois son voisin sur la route, est-ce que il faudrait pas limiter, voire interdire, voire moi je serais prêt même à financer des publicités, des contre-publicités, parce que finalement je crois que beaucoup de gens qui n'ont pas encore la conscience écologique très poussée sont orientés vers le SUV presque à leur insu par la publicité.
Alors Mathieu Chassigné, voilà. Votre réponse, est-ce qu'interdire ça permettrait d'arrêter la vente de ces SUV, la publicité?
On va dire que est-ce que si on faisait pas de pub pour des SUV, on en vendrait moins? Sans doute. Les constructeurs ne sont pas idiots. S'ils font des pubs pour des véhicules, c'est que ça permet d'en vendre plus. Donc oui, je pense que réguler la pub, ça aurait son utilité. Certains députés l'ont fait, notamment Mathieu Orphelin avait proposé ça. Donc, pourquoi ne pas finalement interdire la publicité pour les 5 ou 10% des véhicules les plus consommateurs ou les plus lourds? Pourquoi pas? Il y a une loi E20 sur le tabac et l'alcool. Pourquoi pas une loi similaire sur les véhicules? Si vraiment on est d'accord pour dire que c'est des véhicules qui n'apportent rien à la société et qui sont nocifs pour la société, alors effectivement, oui, on pourrait interdire vraiment les quelques véhicules les plus excessifs, on pourrait dire.
Alors, on a une remarque d'ailleurs de Lise sur l'application France Inter. Vous me faites marrer sur France Inter avec toutes vos pubs pour les SUV. Je le redis, nous, on n'y est pour rien dans l'émission. Give.
Oui, c'est Galien qui, justement, lui dit « Pour SUV, je propose sans utilité véritable ». En réponse à ce qu'il vous dit. Et sinon, c'est Fred sur l'application Twitter de France Inter. Pourquoi le gouvernement ne lance-t-il pas un programme de recherche développant pour mettre au point des véhicules qui ne consommeraient qu'un ou deux litres au 100? C'est de ça qu'on a besoin, les gilets jaunes, pas de SUV qui pèsent 2 tonnes.
Oui, c'est une très bonne question. Alors, en fait, des programmes, il y en a eu dans les années 80. La France avait lancé un programme véhicule 3 litres au 100. Dans les années 2000, c'était le programme véhicule 2 litres au 100. Sauf qu'aujourd'hui, on en est loin.
Et qu'entre-temps, il y a eu le Dieselgate.
Alors, entre-temps, il y a eu le Dieselgate. Oui, effectivement. Alors, le problème social, c'est un vrai sujet. Puisque aujourd'hui, l'acheteur d'un véhicule neuf, finalement, il n'est pas très représentatif du français moyen. Il est plutôt plus aisé. Il est plus âgé, il a 56 ans en moyenne, l'acheteur d'un véhicule moyen. Et donc, il peut se permettre d'acheter un véhicule qui est un peu plus cher à l'achat, qui est un peu plus cher à l'usage, parce qu'un SUV consomme plus, et puis il est plus cher en entretien. On use un petit peu plus les pneus, les freins, quand il faut changer une pièce, ça coûte un peu plus cher. Et donc, finalement, dans 5 ans, dans 10 ans, quand ces véhicules se retrouveront sur le marché de l'occasion, ils vont être achetés par des gens qui sont plus modestes. Et donc, effectivement, ça risque de mettre en difficulté certaines personnes qui vont acheter ce type de véhicule, mais qui vont devoir payer les frais qui vont avec.
On a Christophe en ligne. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Mathieu Chassigné, écoute votre question.
Voilà. Donc du coup, il y a eu déjà un petit peu des éléments de réponse. Je voulais savoir déjà un petit peu quelle était la population qui achetait ces véhicules. Il y a déjà eu des éléments. Et aussi une réflexion, parce que je sais qu'il y a des gens qui achètent ce genre de véhicules pour leur côté pratique, parce qu'ils sont plus hauts, notamment les gens qui ont des enfants, c'est effectivement pratique pour rentrer les enfants avec le siège et tout ça, le sortir, rentrer les courses, sortir les courses, etc. Et donc, il y a forcément besoin. Je pense que c'est un vrai argument. Je pense qu'il y a, du coup, il y a vraiment besoin d'un type de véhicule qui soit adapté à ce genre d'usage, quoi.
Mathieu Chassigné. Alors merci Christophe, merci
alors
beaucoup.
Alors qui achète ces véhicules? Donc aujourd'hui c'est à peu près tout le monde. Au départ c'était plutôt masculin quand même. D'ailleurs on le voit dans les arguments qui étaient mis en avant par les pubs. On avait des choses au départ qui étaient relativement, on va dire, sexistes.
Oui, il y a beaucoup de messages virilité.
Voilà, il y a par exemple BM qui avait fait des pubs pour sa X6 qui parlait que le véhicule avait des attributs de mâle dominant et que ça permettait d'être un chef de meute sur la route. Donc c'est une pub qui était assez mal passée, qui a été retirée par la suite. Volkswagen avait fait aussi une pub qui avait pas mal choqué, qui disait « Faites en sorte que l'amant de votre femme, ce soit vous ». Donc en 2018.
Ah oui, je me souviens de celle-là, c'est vrai. Ça m'avait un peu
complètement
bien
décalé.
Choqué, oui.
Mais voilà, ils l'ont fait.
Mais on voit quand même des femmes au volant.
Alors les constructeurs se sont rendus compte que finalement, quand on est aux hommes, ils n'arriveront jamais à dépasser les 50% de vente. Donc aujourd'hui, ils communiquent aussi pour les femmes. Aujourd'hui, grosso modo, c'est à peu près tout le monde qui achète des SUV. Et sur l'autre question, alors oui, effectivement, la hauteur du véhicule, c'est quelque chose qui est mis en avant, notamment dans un contexte de vieillissement de la population ou pour les familles avec enfants. Donc là, on va dire que c'est peut-être un des seuls avantages objectifs des SUV par rapport à d'autres types de véhicules. Et le message, c'est peut-être aussi aux constructeurs d'être inventifs et de trouver des moyens de finalement d'apporter ce confort sur des véhicules qui ne soient pas des SUV pour autant, qui resteraient des véhicules plus petits, moins surélevés, etc.
On a une Dominique pour une question au téléphone. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Voilà, on vous écoute.
Je vais prendre ma question. Voilà, moi je voulais poser le problème. On classe une catégorie dite SUV, qui sont des SUV, mais il y a plusieurs types de modèles. Si on prend des petits SUV, exemple ce qu'on fait en France, le Renault Captur 2008, etc., ce sont des véhicules qu'on appelle SUV, mais qui ne polluent pas plus qu'un autre véhicule et qui sont plus pratiques que le modèle qui correspond à la gamme normale, c'est-à-dire Clio ou 208. Voilà, alors il ne faut peut-être pas mettre dans les SUV tous les types de véhicules. Bien sûr, il y a des gros SUV allemands ou autres qui sont différents, mais voilà, il faudrait nuancer ça.
C'est ça.
Voilà, c'était ma remarque.
Merci Dominique pour cette remarque. Mathieu Chassigné, il ne faut pas faire d'amalgame. Les SUV qu'on voit dans la rue, ce n'est pas tous les mêmes.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut bien distinguer. Il y a différentes sortes de SUV. C'est vrai, de toute façon, SUV, c'est un terme marketing, donc il peut désigner tout à la fois. Il y a même des vendeurs de voitures sans permis qui disent que ce sont des SUV sans permis, ce qui est particulièrement paradoxal. Mais...
Ou c'est un très bon vendeur.
Effectivement, entre certains SUV allemands, américains ou japonais qui sont très, très volumineux, qui peuvent dépasser parfois les 2 tonnes. Et puis il y a certains SUV qui sont beaucoup plus raisonnables. Les SUV français globalement sont plutôt plus petits que les SUV allemands, par exemple. Après, c'est souvent la plupart du temps, ce sont des dérivés d'un véhicule compact ou d'une citadine. Quand même, ça consomme plus. C'est-à-dire qu'un SUV consomme à peu près 10 à 15% de plus que son véhicule équivalent dont il est dérivé.
Et justement, on a un message de Pascal par Internet qui nous dit que par souci d'impact CO2, j'ai acheté un SUV 100% électrique. Est-ce un mauvais choix de ma part? Alors, rassurez-le ou pas?
Alors, de deux choses. Une, c'est vaut peut-être mieux, notamment s'il roule beaucoup, utiliser un SUV électrique qu'un SUV thermique, en effet, puisque finalement, si sur sa phase d'utilisation, il va émettre moins de CO2. En revanche, sur un SUV électrique par rapport à un véhicule électrique plus normal, il faut embarquer une plus grosse batterie, puisque le SUV consommera plus d'électricité au kilomètre, et donc il faudra qu'il embarque plus d'énergie, donc une plus grosse batterie.
Donc la voiture est plus lourde.
Donc la voiture en plus est plus lourde, et on sait que ce qui est impactant dans la construction d'un véhicule électrique, c'est sa batterie justement. Et donc il faut rouler à peu près 50-60 000 km pour rentabiliser le coût environnemental de la batterie, et donc... Ça justifie d'autant plus d'avoir des véhicules qui soient relativement légers, avec une petite batterie, pour minimiser au maximum l'impact environnemental, et notamment celui de la batterie.
Mathieu Chassigné, on a une question de Gilles par email. Les gens qui achètent les SUV ont l'impression d'être plus en sécurité, mais qu'en est-il pour les piétons? C'est un vrai sujet, hein. Ça, il y a des accidents avec les SUV qui n'avaient pas lieu avant.
Oui, alors je crois qu'on est en train d'en prendre conscience en France, et ça c'est documenté depuis quelques temps en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Aux États-Unis, par exemple, ils ont montré qu'en cas de choc avec un piéton, le piéton avait 2 fois plus de risques de mourir avec un petit SUV.
Pourquoi ?
Et 3 fois plus de risques de mourir avec un gros SUV. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont des véhicules qui sont plus gros. La hauteur de capot, en particulier, est plus importante. Et donc, en cas de choc avec un piéton, là où une voiture normale aurait tapé plutôt les jambes, on va dire, un SUV va plutôt taper la hanche ou le torse. C'est particulièrement vrai si c'est un enfant, par exemple. Et donc, le choc sera beaucoup plus dangereux. C'est surtout une question de hauteur de la face avant du véhicule.
Donc ça, c'est également un problème supplémentaire.
Et donc c'est un problème qui est peut-être le problème le plus important, enfin en tout cas un problème très important, et qui se pose en ville notamment, où on voit que les maires de grandes villes n'ont pas vraiment de carte en main pour réguler les véhicules qui roulent sur leur route.
Et puis l'autre problème qu'on pourrait évoquer rapidement, c'est le fait que ce soit des véhicules très encombrants et qui du coup prennent de plus en plus de place dans les villes, où pourtant on essaye de faire de la place plutôt pour les vélos ou les autres
alternatives. Oui, alors les villes font des efforts pour développer la pratique du vélo. Par exemple, aujourd'hui, 60% des Français aimeraient faire du vélo, mais n'osent pas le faire. Et si demain, si on a de plus en plus de SUV, les Français oseront de moins en moins faire du vélo. Et donc, c'est extrêmement pervers. Donc, c'est encore un désavantage du SUV pour la meilleure cohabitation, si je puis dire, en ville.
Merci beaucoup, Mathieu Chassinier, d'avoir été avec nous dans La Terre au Carré. Ingénieur en charge des mobilités à l'ADEME, je le rappelle, juste
Haute
après
France.
Les infos
Haute-France.
Et juste après les infos, le feuilleton de la semaine, on part sur l'île d'Ouessant, dernière terre avant l'Amérique.
Inter, la Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, des jardins potagers en libre service avec Marie, bénévole des Incroyables Comestibles à Annecy dans Vos Solutions pour la Planète. Et puis Guy, écoutez bien, si vous aimez les conditions de vie extrêmes, eh bien vous allez être servi avec notre invité découverte Cyprien Verseux, astrobiologiste qui a passé presque un an dans la région la plus froide du monde et le raconte dans son livre Un hiver en Antarctique. Mais d'abord, le feuilleton de la semaine sur les îles bretonnes et épisode 2. Bonjour Morgane Large.
Bonjour Camille.
Cap très à l'ouest aujourd'hui puisque vous nous emmenez à Ouessant.
Dernière terre avant l'Amérique, la plus occidentale des îles bretonnes, est située à une vingtaine de kilomètres du continent.
Et c'est parti, devant, derrière, on peut larguer.
Alors en fait, la grosse particularité de l'île de Ouessant, c'est que c'est un réseau isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble entre Ouessant et le continent. Et donc aujourd'hui, ce sont des groupes électrogènes qui produisent l'électricité pour Ouessant. Et ça brûle entre 2 millions et 2 millions et demi de litres de fioul par an.
Oui, l'électricité est venue très tard à Ouessant, dans les années 50. C'est les moteurs du phare au départ, le phare de créage, qui fournissent l'électricité, ce qui fait que le soir, quand le phare se mettait en route, il n'y avait plus de lumière. Puis après, le réseau s'est étendu, mais effectivement, c'est une centrale au fioul qui alimente l'île. On n'est pas relié par un câble, les fonds marins sont très compliqués. Et à l'époque, ils ont estimé que ça coûterait effectivement très cher.
Un peu d'histoire avec Denis Paluel, le maire de l'île. Mais aujourd'hui, l'enjeu principal à Ouessant, c'est de décarboner l'énergie.
Les territoires insulaires, c'est des territoires qui sont très particuliers, mais c'est un peu une reproduction en petit des enjeux qu'on vit aussi sur tout le continent. Et ça peut être aussi une opportunité pour tester des choses à petite échelle et essayer de voir comment on pourrait demain vivre, par exemple, dans un monde où 100% de notre électricité, c'est renouvelable. Sur Ouessant, le projet qui va être enclenché là va expérimenter d'alimenter en électricité l'île avec de l'hydrolien, de l'éolien, du solaire et du stockage. Et c'est peut-être à petite échelle ce qu'on pourrait être amené à faire à grande échelle dans quelques dizaines d'années sur le territoire français.
Ce projet de ferme pilote énergétique est suffisamment rare pour que Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME, soit là, ce jour-là, à Ouessant, le jour où la société Sabella immerge son hydrolienne pour de bon.
Cette hydrolienne a été mise à l'eau pour la première fois en 2015 et elle a été remontée pour voir le retour d'expérience que l'on pouvait faire des mesures. Et on l'a remise à l'eau et on la remet encore à l'eau aujourd'hui.
Benoît Bazir, qu'on vient d'entendre, est à la tête de la PME bretonne Sabella, l'une des deux seules entreprises en France qui développe l'hydrolien. Nous rejoignons en bateau avec une petite équipe le site de l'immersion où nous attend un bateau grutier norvégien, spécialiste des travaux offshore. Le timing est serré, l'intervention devant se faire entre le changement de sens de la marée pour poser l'hydrolienne sur son socle à 55 mètres de fond dans le Fromveur. Et le plus à même de nous expliquer ce qu'est le Fromveur, c'est le patron du bateau.
Fromveur, c'est le nom du courant qui passe entre Molène et Ouessant.
On est dessus là ?
Oui, on est en plein au milieu.
C'est comme ça que ça bouge ?
Ouais, un peu. Hein. Après, c'est un des courants le plus fort de l'Europe même. Tu montes à combien ? 9 nœuds à peu près. C'est pour ça qu'ils ont mis l'hydrolienne ici d'ailleurs.
Là, on déploie l'hydrolienne. Pendant toute la nuit, il y en a pour 6 heures à peu près, ils font la connexion. D'accord. Et cette nuit à 22 heures, ils reposent le connecteur au fond de l'eau.
La connexion, c'est la connexion électrique ?
C'est la connexion électrique de la turbine à son câble qui va à l'île de Ouessant.
C'est de la technologie extrêmement pointue ou pas ?
Oui, c'est relativement pointu, surtout la partie centrale dans laquelle se trouve à la fois la génératrice qui produit l'électricité, mais également tout ce qui est conversion et transformation pour traiter le signal électrique et faire en sorte qu'il soit consommable par le réseau à la bonne fréquence, à la bonne phase, à la bonne tension.
Et ça se passe dans l'hydrolienne ?
Tout ça est dans l'hydrolienne.
Une nouvelle étape est franchie à Ouessant pour atteindre l'autonomie énergétique. Mais cela veut-il dire que les Ouessantins vont consommer du courant comme tout le monde ? Pas vraiment.
Dans le projet actuel, dans le projet phare et à côté, il y a tout un travail qui se fait sur, grâce notamment au compteur Linkim ou à d'autres systèmes, le fait de pouvoir adapter les consommations. Je prends un exemple, les compteurs heures creuses pourraient très bien être adaptés aux horaires de marée, puisque l'hydrolienne elle va produire plus quand il y a des marées importantes. Et donc, il y a tout un projet qui vise à... On va commencer par du volontariat, une cinquantaine de foyers qui sont recherchés pour être d'accord de moduler leurs heures creuses en fonction des marées. Voilà, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans le domaine des réseaux intelligents, puisque la technologie aujourd'hui le permet.
Par ailleurs, on voit un peu partout des messages incitatifs pour baisser sa consommation d'énergie, du genre « être dans le vent, c'est utiliser le fil à linge et pas le sèche-linge » ou encore, mon préféré, pas besoin d'être une lumière pour l'éteindre.
Elle est pas mal celle-là, effectivement. Et demain, on va où, Morgane ?
Demain, on partira sur l'île d'Ar.
Alors à demain ?
À demain.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Et des îles bretonnes, on passe aux montagnes alpines puisque nous sommes en ligne avec Annecy et Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'une des bénévoles paysagistes, animatrices de jardin, de l'antenne locale des incroyables comestibles. Donc, qu'est-ce que c'est le principe des incroyables comestibles, Marie ?
Oui, alors c'est une super initiative en fait qui a été prise par deux femmes en Angleterre en 2008, dans une petite ville sinistrée du nord-ouest de l'Angleterre, à Tonmorden. Puis elles ont eu l'idée géniale et puis simple de faire pousser devant chez elles en fait des légumes dans des bacs en libre service, à disposition de tous. Et puis tout le monde peut se servir. Les voisins trouvent ça génial et puis ils s'y mettent. Et puis la communauté entière suit, en fait. Donc de l'école au commissariat, donc tout le monde plante de quoi manger. Et c'est là que le mouvement incroyable comestible est né. Et la ville devient quasiment presque autosuffisante en 3 ans en recréant en fait toute une économie locale et en installant des maraîchers pour faire court. Et c'est devenu depuis un mouvement qui est mondial.
Mais des courgettes, des fraises, ça pousse en milieu urbain, Marie ?
Absolument, oui.
Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à Annecy, par exemple, dans vos potagers, alors ?
Alors nous, ce qu'on a dans nos potagers, on a différentes choses, alors beaucoup de petits fruits aussi, tout ce qui est cassis, groseille, etc. Mais en ce moment, c'est plus des plantes, des côtes de blettes, différentes légumes racines qu'on peut avoir dans nos espaces.
Et donc,
on est plutôt pleine terre, nous.
Vous êtes pleine terre, vous n'êtes pas dans les bacs. Le principe, c'est donc que tout le monde peut se servir. Vous plantez, ça pousse, et puis si on passe à côté et qu'on a une petite faim ou qu'on a besoin de manger, on prend.
Alors oui, le principe des incroyables comestibles, en fait, c'est servez-vous librement, c'est gratuit. Après, dans la pratique, on s'est rendu compte en fait que certains prenaient tout sans même participer, et il y avait plus rien pour les autres. Donc, on s'est fixé comme règle de dire aux gens de prendre de façon raisonnable et de partager. Nous, on a des bénévoles qui se démotivent parce qu'ils voient même pas les légumes qu'ils ont plantés arriver à maturité. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation en fait à faire en même temps là-dessus. Et c'est important que les gens qui aiment la démarche en fait participent, donnent un peu de leur temps et partagent la récolte.
Parce que sinon, Marie, j'imagine qu'il y a des dégradations qui peuvent arriver.
C'est pas tant des dégradations, c'est vraiment le fait de prendre. Voilà, de prendre, c'est comme c'est gratuit, on prend tout et on ne reste pas forcément pour les autres. Les espaces verts de la ville d'Annecy qui nous soutiennent avaient peur de ça, mais en fait, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de dégradations.
Marie, ça fait longtemps que les incroyables comestibles sont à Annecy ?
Alors nous, on a entendu parler de l'initiative en 2014. Notre aventure elle commence là, avec la création d'un groupe incroyable comestible sur un terrain communal en fait qui était en friche depuis des années. Et puis on n'a pas demandé spécialement l'autorisation à la ville au départ. Mmh. Et puis voilà, ça continue. On a rencontré donc nous les certains élus et la direction justement paysage et biodiversité de la ville pour avoir des terrains, pour obtenir des terrains.
Parce que c'est ça, c'est qu'on peut pas planter n'importe où en ville, hein. Si on a envie, là, demain, d'aller se faire un truc sur un trottoir, on n'a pas le droit, ou en tout cas, on ne sera pas dans notre droit.
Oui, oui et non. Nous, c'était vraiment le fait de pas refaire les choses plusieurs fois, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un agent des espaces verts vous coupe ce que vous avez planté. Vous n'êtes pas à l'abri que ce soit arraché, etc. Donc, nous, on voulait vraiment travailler en bonne intelligence, et puis on voulait vraiment travailler, oui, voilà, avec la ville, et ça marche plutôt bien. Donc, on leur dit, nous, on demande aux citoyens, en tout cas, les espaces qu'ils veulent cultiver sur l'espace public, en tout cas, on centralise les demandes et on demande la validation à la ville.
Mais alors, pourquoi pour une ville vouloir la transformer en un potager géant ?
Oui, aussi. Nous, en tout cas, on occupe un grand espace de 1200 m2, là, situé à côté du Népal et d'une école. Et puis, on a différents petits jardins, ce qu'on appelle les jardins de poche, qui sont disséminés un peu partout en ville.
C'est ça le but des incroyables comestibles, c'est qu'un maximum de villes, finalement, puissent avoir ces potagers en libre service. C'est aussi une question de sensibilisation auprès des citadins, comme on dit, Marie.
Oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en ville, on a des citoyens qui ne connaissent plus rien aux plantes, aux arbres, aux légumes, comment ça pousse, à quelle saison, d'où ça vient, les difficultés pour les faire pousser. D'ailleurs, ça devrait être enseigné dans toutes les écoles, mais là encore, c'est très timide. Et la plupart du temps, nous, on est dans des immeubles avec très peu d'espaces verts, dépourvus de plantes comestibles, et on a vraiment... Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais on parle beaucoup d'autonomie alimentaire sur notre territoire. On veut privilégier les circuits courts, l'alimentation saine. C'est aussi à nous de pousser nos élus pour que les maraîchers bio puissent s'installer au plus proche des villes, voire au cœur de la ville et pas toujours en périphérie. Et c'est à nous de savoir aussi qu'est-ce qu'on se veut dans les espaces publics.
Allez-y.
Qu'est-ce qu'on veut voir dans nos espaces publics ? Et moi, je rêve vraiment de pouvoir revoir et de pouvoir prendre des fruits, des légumes, différentes choses, voilà, sur les espaces publics.
Justement, j'allais vous dire, vous étiez, vous, avant, ingénieur dans le bâtiment, spécialiste de l'énergie et l'environnement. Et en fait, vous avez tout quitté pour vous lancer notamment dans ce collectif.
Alors, oui. Alors, c'est tout un cheminement pour ma part, au fil des lectures, des documentaires et puis des expériences que j'ai pu faire. Moi, j'ai choisi de quitter mon travail parce que j'étais plus trop en phase avec ce que je faisais. Et puis, on voit beaucoup de choses qui vont mal et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Et moi, c'était une partie aussi. Quand j'ai découvert qu'il y avait un collectif, un incroyable comme type sur Annecy, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire des choses qui avaient du sens pour moi et de disposer de mon temps pour entreprendre des actions collectives qui me tiennent à cœur. Donc, voilà, je me suis lancée là-dedans aussi.
Et donc, en un mot, c'est quand même très bien accueilli sur le terrain. La population voit ça d'un bon œil.
Oui, oui. Alors oui, les gens s'y intéressent et on est très suivis sur les réseaux sociaux, mais nous, la grosse problématique, c'est comment motiver les citoyens pour passer à l'action et sur le long terme dans la vraie vie. Voilà la question qui se pose dans tous les collectifs et associations. On voit vraiment que les choses changent. Le documentaire Demain de Thierry Dion a fait beaucoup de bien et a permis de mettre en lumière différentes initiatives comme la nôtre. Mais voilà, on sent que c'est encore timide et on a besoin... Nous, on est à notre cinquième année d'action. Mmh. On lâche pas, mais on a vraiment besoin de
vous. Que la relève arrive.
Eh ben, si on vous écoute, Marie, on peut vous joindre. Donc, j'imagine les pages Facebook des incroyables comestibles à Annecy, oui. Donc en particulier, mais pas qu'à Annecy. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur France Inter. Et donc, bonne journée dans les Alpes. Et donc, si comme Marie, eh ben, vous avez envie de nous parler d'une de vos solutions pour la planète ou si vous avez besoin d'aide pour monter un projet, ça existe aussi. On attend vos messages et vos idées sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr. Dans un instant, l'invité découverte, Cyprien Verseux, qui nous emmène, Give, en Antarctique.
You make my earthquake. fuck up, I know. You like fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. I'm with Tyler, yo. He ride like the car. And she weak. Yo, like Wolf Vicky. Yo, oh my god. Oh, damn, not Timmy. Yo, something up.
Tyler, the Creator, c'était Earthquake.
La Terre au Carré. Camille Cronier.
Et j'espère que vous êtes bien au chaud là où vous nous écoutez, car la température va devenir glaciale. Alors, je parle évidemment pas de l'ambiance dans le studio. Bonjour Cyprien Verseux.
Bonjour.
Je parle bien du thermomètre, hein, puisque on part avec vous sur la banquise. Vous publiez Un hiver en Antarctique, seul sur la planète blanche, aux éditions Hugo Images. Combien de degrés l'hiver en Antarctique ?
Alors à Concordia, là où on était, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés ou en dessous. Et avec le vent, la température ressentie peut être sous les moins 100 degrés.
C'est la zone la plus froide du monde, c'est ça ?
C'est la région la plus froide du monde, oui.
Et vous montrez d'ailleurs les effets de ces moins 80 degrés avec des photos dans votre livre. Elles sont assez dingues. On voit par exemple un œuf qui se fige avant même de tomber dans la poêle.
C'est ça. En fait, c'est parce que ces températures-là, qu'on n'y a jamais été exposé, c'est pas très parlant, c'est un peu abstrait. Et du coup, on a décidé de faire ces photos de nourriture congelée.
On voit les spaghettis qui sont figés, on voit de la raclette.
C'est ça. Donc, on a pris un spaghetti avec une fourchette, on lâche la fourchette et la fourchette tient comme en suspension au-dessus des spaghettis. Et c'était pour montrer justement visuellement à quel point il fait froid.
Et comment vous, être humain, vous êtes pas figé dans cette environnement?
On était bien équipés. Tous les matins, il fallait mettre des sous-vêtements thermiques, une combinaison qui était faite spécialement pour Concordia, des bottes qui peuvent résister à moins 100 degrés, cagoule, passe-montagne, bonnet polaire, après des gants chauffants avec une batterie, des sachets d'une poudre qui produit de la chaleur, sous-gants, gants, moufles. Il fallait vraiment faire attention à pas avoir 1 cm² de peau exposée.
Du tout.
Parce que la peau peut geler en quelques secondes.
Vous avez 28 ans, donc vous êtes astrobiologiste et vous avez passé presque toute votre année 2018 sur la base scientifique franco-italienne Concordia. C'est où et ça ressemble à quoi la base Concordia ?
Alors c'est en dessous du globe terrestre, c'est pas loin du pôle sud, à peu près 1200 km de la côte sur le continent Antarctique. Et c'est sur un désert de glace, c'est-à-dire que dans toutes les directions, il n'y a pas une plante, pas un animal, pas un caillou, presque pas de relief, c'est juste cette couche de glace, qui d'ailleurs s'étend à 3 km de profondeur sous nos pieds.
Et la base n'a pas été choisie par hasard, c'est un vrai lieu, une archive de l'atmosphère.
Voilà, en fait on s'était mis là au départ parce qu'il y a eu le projet, notamment le projet EPICA, où il y a eu des carottes de glace qui ont été prélevées jusqu'à 3 km de profondeur, pour trouver de l'atmosphère d'il y a 800 000 ans. Et donc c'est comme ça qu'on a vu par exemple que le niveau de CO2 dans l'atmosphère n'avait jamais été aussi haut, au moins dans les 800 000 dernières années.
Donc c'est vraiment un désert de glace qui nous entoure.
Puis au milieu de tout ça, il y a la base Concordia. Donc c'est 2 tours de 3 étages reliées par une passerelle couverte.
Très convivial, donc.
Très convivial. Et puis quand on arrive là-bas, on a vraiment l'impression d'arriver sur une autre planète, dans une base extraterrestre. Ça ressemble à rien d'autre.
Alors vous êtes parti là-bas, vous, en tant que chef de mission, avec 12 autres chercheurs. L'idée de ce genre de mission, c'est quoi ? C'est d'étudier aussi bien l'humain que l'environnement qui l'entoure ?
C'est ça, en fait. Il y a des chercheurs de différents domaines. Et puis la moitié des gens aussi sont là pour nous permettre de vivre et survivre. Donc il y a aussi des techniciens, cuisiniers, un responsable des communications. Et on fait des recherches en astronomie, parce que justement on a la nuit polaire, on a l'atmosphère qui est très fine et très sèche, et donc c'est très bien pour différentes observations. Il y a des études sur la glace, des études de glaciologie, parce que c'est très très peu pollué. D'autres choses qui sont liées au climat. Il y a des observatoires de magnétisme, de sismologie et autres. Et il y a aussi des recherches pour l'exploration spatiale, parce que comme c'est ce qui se rapproche le plus d'une future base sur la Lune ou sur Mars, les agences spatiales et notamment l'Agence spatiale européenne regardent comment on s'adapte à ces conditions extrêmes.
Parce qu'en fait, il n'y a pas d'être vivant là-bas. Donc par exemple, il n'y a pas de biologiste sur la base.
Il n'y a pas de biologie, il n'y a pas de plantes, pas d'animal. On n'a même pas vu un insecte. Alors il y a quelques bactéries qui, a priori, peuvent survivre dans un état plus ou moins dormant. Mais c'est tout.
Comment on fait pour vivre à 12 ou à 13 comme ça sur une base? C'est en autonomie totale. Hein.
C'est en autonomie totale. Alors, on est bien sûr, on a de l'aide par télécommunication des instituts polaires français et italiens, l'IPEV et le PNRA, mais ils ne peuvent pas nous rejoindre parce que pendant 9 mois, la base n'est pas accessible. Et donc, on doit être prêt à se débrouiller, quoi qu'il arrive.
C'est un vrai huis clos, quoi, si j'entends bien. C'est comme dans les romans policiers où à la fin, on doit savoir qui a tué.
C'est ça. Alors, heureusement, personne n'a tué personne, mais l'ambiance est un peu celle-là. Ouais.
Et il y a une vie quotidienne quand même. On voit quand même dans le livre également, vous avez beaucoup posté de photos sur votre compte Twitter. Il y a même un bar.
Ouais, alors ça c'est
ça vous a plu ça.
Mais oui, ça m'a marqué.
En fait, pendant l'été, donc pendant 3 mois entre novembre et février, les avions peuvent aller et venir, il fait suffisamment chaud et on peut être jusqu'à 80 personnes.
D'accord.
Et là, oui, il y a beaucoup d'animation. Donc le bar dont vous parlez, en fait, c'est qu'on a là, une tente qui est à quelques centaines de mètres de la base, qu'on appelle la Spakaosa, qui veut dire Brisos, parce que c'est nommé après une équipière qui, en sortant, a glissé et s'est cassé la jambe.
Donc il y a une vie quotidienne. Vous faites du sport
On fait du sport. Alors bon. On a une salle de musculation, on a construit un mur d'escalade dans une salle. Mmh. Tapis de course, des poids, des haltères.
Alors justement, on se doute qu'on ne va pas du jour au lendemain en Antarctique et encore moins sur Concordia, aussi bien psychologiquement que physiquement. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les tests, toutes les sélections, les préparatifs que vous avez dû subir?
Oui, alors je peux parler de la partie italienne parce que je travaillais en Italie à ce moment-là, donc j'ai été recruté par l'Institut Polaire Italien. Bah, ça a commencé déjà par la sélection technique, être recruté par le laboratoire pour lequel je travaillerai sur place, et ensuite qui propose la candidature à l'Institut Polaire. Ensuite, on est convoqué pour 2 jours dans un hôpital militaire, où là on est observé par tout un tas de médecins qui regardent à peu près tout notre corps, notamment notre cerveau, avec une psychologue, un psychiatre, un neurologue, et puis des tests psychologiques avec des centaines de questions.
Là on en revient à notre huis clos de tout à l'heure.
Ouais, justement pour voir si on pourrait supporter l'hiver, parce qu'une fois qu'on est là-bas, on peut pas nous renvoyer chez nous. Après, donc on a une semaine avec des tests à la fois théoriques et physiques.
Et physique,
alors le physique, c'est par exemple traverser un tunnel en flammes, s'échapper dans un hangar en fumée, sauver un équipier tombé dans un lac, grimper à la corde, ce genre de choses. Après, on va camper 5 jours sur un glacier. Ouais. Et donc là, on est observé par des militaires et puis par des psychologues. Et ensuite, on est mis donc avec les gens qui ont été recrutés par l'Institut Polaire français, qui ont été recrutés séparément. On a une semaine en plus de à la fois team building pour renforcer la cohésion de l'équipage et de cours secourisme et autres. Et ensuite, on a des cours spécifiques à nos missions. Donc pour moi, c'est la glaciologie et le rôle de chef de base.
Et ensuite, vous êtes choisi et vous pouvez partir pour un long voyage. Vous avez vu beaucoup le soleil pendant tous ces mois?
Alors, je l'ai vu beaucoup pendant l'été parce qu'il était là 24 heures sur 24.
Et l'hiver,
et après,
la nuit
le jour, après le jour se transforme en nuit. Et puis on a 3 mois notamment où le soleil n'atteint même pas la ligne d'horizon.
Donc là, ça a des conséquences psychologiques et même physiques, non, de pas voir le soleil pendant des mois.
Si vous avez des baisses de morale quand il fait sombre en hiver ou parce que le temps est couvert, vous pouvez imaginer ce que c'est que de pas voir le soleil pendant 100 jours. Donc les gens sont affectés à différents niveaux, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu moins le moral, être plus fatigué, plus irritable.
Ça va, vous l'avez bien vécu?
Oui, ça a été, oui. C'est vrai qu'il y a toujours un peu, une période où on est fatigué, puis après le soleil revient, et c'est un événement immense, et le moral remonte à ce moment-là.
Alors, Cyprien Verse, vous dites que Concordia est encore plus éloignée, ressemble à une planète, une base qui pourrait être sur la Lune ou sur Mars, et qu'elle est encore plus éloignée de la civilisation que la Station Spatiale Internationale.
Oui, c'est-à-dire que, alors c'est difficile à comparer, mais c'est vrai que si on regarde en nombre de kilomètres, là, l'ISS est à peu près 400 kilomètres autour de nous. À Concordia, la station la plus proche est une station russe, Vostok, qui est à 550-600 kilomètres. Et surtout, on peut pas nous ramener sur Terre.
On ne peut pas
nous ramener de Concordia pendant l'hivernage, simplement parce qu'il fait trop froid pour que les véhicules puissent arriver ou repartir.
Alors, vous y connaissez en isolation, si je puis dire, et en planète Mars, puisque l'année d'avant, visiblement, vous aimez beaucoup les conditions extrêmes. Vous avez passé une année entière isolée sur un volcan à Hawaï pour là simuler les conditions d'une base sur Mars avec la NASA.
Oui, ça c'est une mission financée par la NASA, donc entre août 2015 et août 2016, et on a vécu assise dans un dôme de 11 mètres de diamètre qui était perché sur les flancs d'un volcan avec juste de la roche volcanique à perte de vue autour. Et on sortait jamais à l'air libre sans combinaison spatiale, on n'avait aucune communication directe avec l'extérieur, puis on vivait comme si on était sur Mars avec de la recherche scientifique.
Mais qu'est-ce que vous aimez dans toutes ces conditions extrêmes?
C'est une bonne question. Vous êtes misanthrope, vous êtes loin de vos semblables.
Mais pas du tout. Mais en fait, j'ai jamais été autant entouré que pendant ces missions-là, parce qu'on est 24 heures sur 24 avec nos coéquipiers. Donc en fait, c'est une aventure humaine qui est très très forte.
Vous dites que c'est un rêve dans votre livre. C'était un rêve d'aller sur l'Antarctique dans cette base.
C'est des conditions qui sont très très fortes, une aventure humaine qui est géniale, et puis c'est des paysages qui sont magnifiques.
Alors, vous commencez le livre quand même avec un entretien express avec une psychologue qui vous pose cette question. T'es pas satisfait de ta vie ou quoi?
Non, en fait,
vous êtes pas satisfait satisfait de votre vie, Cyprien Massé?
En fait, c'est que j'avais sauté cette question sur les centaines de questions. J'avais sauté une ligne et c'était celle-là. Et donc, évidemment, dès que je suis arrivé, elle m'a crié dessus parce que j'avais sauté une question. Mais c'est une psychologue qui était là pour essayer de me faire sortir de mes gonds pour voir justement comment je réagissais dans des conditions difficiles.
Moi, je me demande si vous êtes chercheur ou cobaye, en fait, avec toutes ces expériences.
Bah, je suis un peu des deux côtés du microscope, ouais.
Justement, j'allais vous demander, c'est quoi l'idée? C'est d'avoir, de ressentir quelque chose, vous, humainement, ou c'est quand même de participer à la recherche pour l'environnement, le climat?
Non, la motivation première, c'est quand même de participer à la recherche là-dessus, parce que je suis quand même chercheur avant tout. Et après, l'aventure, c'est un plus, mais c'est d'abord pour la recherche.
D'ailleurs, aujourd'hui, vous travaillez en Allemagne. Vous avez ouvert un laboratoire.
C'est ça. Alors, c'est un laboratoire spatiale. Qui est encore tout petit pour l'instant, qu'on a commencé en mai. Mais c'est le laboratoire de microbiologie spatiale appliquée qui est là pour développer des technologies basées sur la biologie en soutien aux futures missions sur la Lune et sur Mars.
Et alors, votre prochain rêve, c'est quoi la prochaine destination extrême?
Pour l'instant, monter mon laboratoire, c'est déjà une aventure qui est pas mal prenante. Et puis après, on verra.
Bon, alors on attend de voir, mais ça sera sur Terre, vous pensez?
J'espère que non.
Merci beaucoup Cyprien Versé, vous avez été avec nous dans la Terre au carré. Donc je rappelle le titre de votre livre, Un hiver en Antarctique, seul sur la planète blanche, publié chez Hugo Images. Bonne journée et à bientôt.
À vous aussi, merci.
Et c'est Valérie Ayestaraï qui était à la réalisation de cette Terre au carré, avec Arnaud Caillé et Michel Bézikian à la technique.